Bonjour.
Bonjour, les effets du rayonnement électromagnétique sur la santé sont difficiles à estimer. Un vaste programme national de recherche sur ce thème n'a mis en évidence aucun lien de cause à effet. Rien d'alarmant donc, même si les chercheurs émettent de nouvelles recommandations, nous dira Christian Favre. Le rachat de Neuchâtel Xamax par l'homme d'affaires tchétchène Bulat Tchagaïev doit être validé ce soir en Assemblée Générale. Le milliardaire proche du président tchétchène Kadyrov reprend un club qui a été battu hier soir par Toun 4 à 1. Nous reviendrons avec Pascal Turner sur les incertitudes qui entourent ce rachat. C'est une information RSR. Le mois prochain, le tribunal administratif fédéral devrait rendre son verdict concernant le CEVA, nous dira Mathieu Cuplin. À cause de divers recours au tribunal administratif fédéral, les travaux n'ont toujours pas commencé. L'autorisation de construire avait été donnée il y a 3 ans déjà. Également dans ce journal, notre opération Immersion cette semaine à Honnay. Aujourd'hui, il sera question des préoccupations énergétiques de nos témoins. Suivre un traitement contre le cancer modifie la vie sexuelle des patients, influe aussi sur la fertilité du malade. Appui, un colloque se penche sur le rapport entre sexualité, fertilité et cancer afin d'apporter des réponses, notamment aux patients. Bénédicte Panès, infirmière au centre du sein du CHUV, sera notre invitée d'ici une vingtaine de minutes. Nuages et pluie aujourd'hui avec des températures de 21 degrés. Demain, retour du soleil, mais le week-end s'annonce humide et beaucoup plus frais. Météo d'Éric Fauchère dans une demi-heure. Téléphoner avec son portable n'est pas nocif pour la santé. C'est le principal constat du programme mené par le Fonds national de la recherche sur le rayonnement ionisant. Présenté ce matin à Berne, l'étude démontre que les ondes émises par les antennes radio, TV et les téléphones portables peuvent influencer certains processus biologiques comme l'activité cérébrale durant le sommeil. Mais en l'état, l'impact sur l'organisme n'a pas de quoi inquiéter Christian Favre.
Oui, les chercheurs se sont montrés rassurants ce matin. Votre téléphone portable, même si vous l'utilisez avec peu de modération, n'est pas en train de vous ruiner la santé. Pour rappel, l'étude a été menée par les universités de Zurich et de Bâle. Elle a mesuré l'impact des 9 millions de téléphones portables utilisés en Suisse, mais aussi des champs électromagnétiques, y compris ceux des réseaux Internet sans fil. Pas de risque pour la santé donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact du tout. Une des grandes révélations de cette étude est de constater que ces rayonnements ont un effet sur les cellules, sur l'ADN même, mais sans endommager le matériel génétique. Celui qui téléphone avec son portable avant de se coucher voit l'activité de son cerveau modifiée, mais ici encore, pas d'impact sur la qualité du sommeil, pas de risque accru non plus de tumeur au cerveau. L'étude exclut également toute corrélation entre appel à répétition et maux de tête. Au niveau des champs magnétiques, les chercheurs constatent que les nouvelles cuisinières à induction produisent des ondes au-dessus des limites admises. Ils recommandent de nouvelles normes sur le plan fédéral, en particulier pour protéger les femmes enceintes.
Mais Christian, c'est une étude rassurante qui ne va pas satisfaire tout le monde.
Oui, l'effet de ces ondes inquiète assez largement au sein de la population. Certains militent aux côtés de l'association faîtière Electrosmog Suisse qui accuse ces universitaires de manipuler la population au profit de l'industrie. Les chercheurs des universités de Bâle et Zurich nous ont rétorqué ce matin qu'ils avaient cherché le dialogue sans succès auprès des militants d'Electrosmog. Des chercheurs qui revendiquent leur totale indépendance et s'ils sont plutôt optimistes aujourd'hui, ils estiment que ce domaine mérite des recherches beaucoup plus approfondies. Reste à convaincre les autorités politiques, car in fine, ce sont elles qui délieront les cordons de la bourse pour faire avancer la recherche.
Christian Favre, en direct de notre studio du Palais fédéral. Neuchâtel Xamax passera officiellement aux mains tchétchènes ce soir lors de l'Assemblée générale du club. L'entraîneur neuchâtelois Silvio Bernasconi remettra ses actions à Bulat Tchagaïev, un milliardaire proche du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Avec cette passation de pouvoir, Xamax est sauvé, mais de nombreuses incertitudes demeurent, Pascal Turner.
Où évoluera Neuchâtel Xamax la saison prochaine? À 3 matchs de l'issue du championnat, le spectre de la relégation en Challenge League plane plus que jamais. Quelques heures après la mortifiante défaite face à Thun, les joueurs qui ont porté hier soir le maillot rouge et noir ont fait preuve d'un manque de combativité inquiétant, comme s'ils avaient déjà la certitude de ne plus évoluer à la Maladière la saison prochaine. Dans ce cas, les futurs dirigeants, en annonçant la signature de plusieurs stars du ballon rond pour la saison prochaine, se seraient marqués un bel auto. Voilà pour les incertitudes sportives. Quant à la nature brutale du régime tchétchène, dont dépend la fortune de Bulat Tchagaïev, elle commence à susciter des protestations. En plus, le nouveau conseil d'administration ne comportera pour la première fois aucun Neuchâtelois. De quoi renforcer l'impression d'opacité qui entoure l'opération et les questions sur l'identité et l'ancrage local de Xamax.
Pascal Turner de la rubrique sportive de la Radio Suisse Romande. C'est le mois prochain que le tribunal administratif fédéral devrait rendre son verdict concernant le CEVAS, une information de notre rédaction genevoise. Cet arrêt tombera 3 ans après l'autorisation de construire la ligne ferroviaire franco-genevoise. Alors 3 ans pour se prononcer sur des recours, ça peut paraître long. À Genève, on commençait sérieusement à s'impatienter, Mathieu Cuplin.
Oui, ça fait effectivement 3 ans cette semaine que l'Office fédéral des transports a délivré l'autorisation de construire le CEVA. Mais aujourd'hui, 20 de recours sont toujours pendants devant le tribunal administratif fédéral. À Genève, les élus, mais aussi les citoyens s'impatientent. On rappelle que la liaison ferroviaire concerne un bassin de population d'1 million de personnes et que chaque année de retard dans l'ouverture du chantier coûte plus de 30 millions. Alors, aucun responsable politique du CEVA ne veut critiquer ouvertement le travail du tribunal, mais plusieurs sources proches du dossier avouent être à bout. On apprend que les parties n'ont été entendu directement par la juge qu'au mois de février cette année donc, et que les visites sur le terrain ont lieu en mars seulement. Auparavant, il y a eu seulement des échanges écrits, prolongés encore par des demandes de délai des recourants. Il y a eu aussi apparemment quelques couacs. Par exemple, quand le tribunal a envoyé un dossier par erreur à une régie immobilière qui recourt contre le CEVA au lieu de l'envoyer à un office fédéral. Une erreur qui, à elle seule, a fait perdre plusieurs semaines.
Mais cette fois, on y est presque. L'arrêt est vraiment attendu tout prochainement.
Alors nous avons obtenu une réponse du tribunal, les observations finales des parties sont attendues le 25 mai et l'arrêt définitif devrait tomber dans la foulée, donc en juin, promet le tribunal. Reste à savoir si le principe de célérité que les tribunaux doivent appliquer dans l'instruction d'une cause a été pleinement respecté. Certains estiment que la procédure aurait pu prendre 1 année de moins. En tout cas, le mois prochain, les choses pourraient enfin bouger pour le CEVA. Si le tribunal rejette les recours, le chantier pourrait démarrer cet automne. Dans le cas contraire, il faut s'attendre à plusieurs longs épisodes encore avant de voir le CEVA sur les rails.
À Genève, les précisions pour cette information RSR de Mathieu Cuplin. On reste à Genève, c'est un immense soulagement pour les intermittents du spectacle qui se sont retrouvés sans indemnité après l'introduction de la nouvelle loi sur le chômage. Les démarches entreprises par le collectif 12A et la ville de Genève ont porté leurs fruits. Le secrétariat d'État à l'économie a suivi un avis de droit genevois, Virginie Mater.
Oui, le SECO a fait marche arrière et pour comprendre ce rétro-pédalage, il faut remonter en mars dernier. Nous sommes 1 mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le chômage qui durcit les conditions pour les intermittents du spectacle. Ceux-ci doivent dorénavant cotiser 18 mois durant 2 ans pour pouvoir prétendre au chômage. Impossible même pour les artistes les plus cotés, estiment les milieux culturels emmenés par le comité 12A. Ils sont entendus par le Conseil fédéral qui accepte le 11 mars dernier de doubler les 60 premiers jours de cotisation. Une modification d'ordonnance que le secrétariat d'État à l'économie décide de n'appliquer qu'aux futurs délais cadres, alors que la nouvelle loi, elle, s'applique avec effet rétroactif. La ville de Genève demande un avis de droit qui confirme une inégalité de traitement. Avis de droit prestement communiqué à Berne et la démarche juridique a visiblement fait son effet puisque le SECO a décidé d'appliquer les nouvelles règles à tous. Le comité 12A a dit son immense soulagement aujourd'hui à Genève en présence de la maire de la ville. Sandrine Salerno était-elle ravie de constater l'influence genevoise sur l'administration fédérale.
Virginie Mater en direct de Genève. Rétablissement des frontières nationales, retour de visa, conditionnalité pour les aides aux pays du sud de la Méditerranée. Et tous ces sujets sont sur la table des ministres en charge de Schengen, réunis aujourd'hui à Bruxelles, une réunion qui ouvre un processus de réforme de Schengen. Précision d'Alain Franco.
À ce stade, une chose est sûre, les accords de Schengen vont être réformés. Le mouvement lancé par la Commission européenne s'est accéléré avec le différend franco-italien sur le traitement des migrants tunisiens. Aujourd'hui, les ministres en charge de Schengen, Suisse inclus, ont un premier débat sur les propositions de la Commission, renforcement des contrôles aux frontières extérieures de la zone Schengen, élargissement des possibilités de rétablir des contrôles aux frontières entre 2 pays à l'intérieur de Schengen, mais dans des cas exceptionnels avec des critères redéfinis. Paris, Rome, Berlin, La Haye sont favorables à ces mesures. Il faut montrer à nos concitoyens que Schengen n'est pas une zone de laisser-faire, dit-on côté français. Mais d'autres pays craignent que tout ceci soit un prélude à un repli de l'Europe, que l'on détricote petit à petit le principe de libre circulation des personnes, que ce soit pour des raisons de sécurité ou d'immigration. Attention aux dérives populistes et à la tentation du repli, avertit le président de la Commission, José Manuel Barroso. La Suisse, elle, ne s'est pas encore positionnée dans ce débat. Simonetta Sommaruga veut donner la primeur à ses homologues européens. Alain Franco, Radio Suisse Romande. Bruxelles.
En Espagne, c'est toujours le choc après les deux séismes qui ont touché hier après-midi le sud-est du pays. Ils ont touché la ville de Lorca de plus de 92 000 habitants. 8 personnes sont mortes, 120 autres ont été blessées. Les partis politiques en pleine campagne avant les élections municipales et régionales du 22 mai ont suspendu leur programme pour la journée. Beaucoup de dégâts matériels, des édifices écroulés, des gravages ont chaussi les rues. Mais la priorité maintenant concerne les maisons fissurées et la sécurité des habitants. À Madrid, Valérie Demont.
Plus de 20 000 personnes ont passé la nuit de mercredi à jeudi dans la rue pour dormir, par peur d'une nouvelle réplique et en attendant de savoir si leurs maisons pourront encore tenir debout. Car 29 répliques ont été enregistrées depuis la seconde secousse de mercredi. Les autorités ont mis en place des équipes de techniciens et d'architectes pour quadriller la ville et inspecter un par un chaque édifice. Car les difficultés désormais ne concernent pas tant les immeubles écroulés, qui restent peu nombreux finalement, mais bien tous ces immeubles aux multiples fissures. Pour l'instant, l'école est suspendue pour les enfants de Lorca. Depuis la première réplique de jeudi, les secours se sont finalement bien organisés. Plus de 400 militaires sont venus en renfort et la ville a réussi à faire évacuer sans panique un hôpital et une résidence de personnes âgées. Et plus de 300 tentes sont déjà installées pour la prochaine nuit. Le vice-premier ministre et la ministre de la Défense sont arrivés ce matin sur place, tandis que Lorca a décrété 3 jours de deuil. Le président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, devrait se rendre vendredi sur place. Valérie Demont, Radio Suisse Romande, Madrid.
Et hasard du calendrier, quelques heures après le séisme, le roi d'Espagne, Juan Carlos, accompagné de son épouse, la reine Sofia, effectue une visite d'État justement de 2 jours en Suisse. Ils ont atterri il y a quelques minutes à l'aéroport de Zurich et ils rejoignent Berne dans un train spécial, Vincent Bourquin.
Oui, Berne, tout en beauté pour accueillir le souverain espagnol. Autour du palais fédéral flottent des drapeaux rouge et blanc. Il y a aussi 3 étendards espagnols et sur la vénérable bâtisse, les drapeaux de tous les cantons, sans oublier de très colorés arrangements floraux. On voit aussi quelques policiers s'affairer, mais les mesures de sécurité n'ont rien à voir avec celles mises sur pied lors des dernières visites d'État. C'était le président russe Dimitri Medvedev et le turc Abdullah Gül. Rappelons que la visite d'État est protocolairement la plus importante pour un chef d'État. Il est invité par le Conseil fédéral et non par un seul membre du gouvernement. Il reçoit les honneurs militaires, ce sera aujourd'hui aux alentours de 15h, puis est accueilli par le Conseil fédéral incorporé. Une visite d'État dure en principe 2 jours et demain le monarque se rendra à Lausanne, une ville où il a passé à son enfance, et il rencontrera notamment des représentants de la communauté espagnole. Alors c'est la deuxième fois que le roi Juan Carlos effectue une visite d'État en Suisse. La première, c'était en 1979 et beaucoup de badauds avaient alors fait le déplacement pour apercevoir quelques minutes le roi Juan Carlos et la reine Sofia. Et si le soleil réapparaît à Berne cet après-midi, les curieux devraient à nouveau être très nombreux sur la place fédérale.
Et cette visite du roi d'Espagne et de sa femme sera retransmise en direct sur TSR2 dès 15h. Le 19h30 consacrera une large partie de son journal également à cette visite. Les 2 boîtes noires du vol Rio-Paris sont arrivées en France. Les enregistreurs de vol vont maintenant être analysés pour comprendre ce qui s'est passé il y a 2 ans pendant le vol Rio-Paris. L'analyse des données prendra au moins 3 jours. Le crash avait fait 228 victimes. Les proches des malades psychiques se sentent souvent laissés pour compte. En les laissant sur la touche, les soignants se privent d'informations utiles. Un constat dressé par les participants au 22e congrès du groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique. Un congrès réuni depuis hier à Lausanne avec 500 personnes, des professionnels de la santé, des patients et aussi des proches. Bonjour Barbara Sbinden.
Bonjour madame.
Vous êtes l'une des organisatrices de ce congrès hier. Ce sont justement des proches de patients psychiques qui se sont adressés au public, qui ont pris la parole. Que disent-ils principalement ?
Écoutez, ce sont des témoignages bouleversants qui défilent ici depuis 2 jours. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'existent pas pour la plupart du temps. Ils sont transparents aux yeux des professionnels. Ils font part et témoignent d'une souffrance surprenante. Et tous ces témoignages ont des points communs. Donc, je vous donne un exemple, une maman qui amène sa fille dans un service d'urgence après avoir fait moult téléphones, qui attend 2 heures en salle d'attente, et lorsque le soignant, le médecin vient chercher sa fille, ne la voit même pas. Donc, non seulement elle lui dit pas bonjour, c'est comme si elle n'existait pas. C'est une jeune femme devenue adulte qui raconte que pendant 15-20 ans, alors que son père était régulièrement hospitalisé, ne travaillait plus, personne, mais personne, absolument personne, n'a songé à lui expliquer ce qui se passait, qu'est-ce qui arrivait à son père, et les traumas consécutifs à ce manque d'informations, alors qu'elle pressentait en tant qu'enfant que tout l'environnement était au courant, mais que personne n'en parlait.
Dans le cas d'un patient psychiquement atteint, c'est encore plus important d'écouter les proches ?
Alors, c'est extrêmement important parce que, bon, on prive le proche de son existence en l'ignorant, mais on se prive soi-même en tant que professionnel d'informations très utiles. Parce que les proches peuvent donner des informations sur le quotidien, ce sont des gardiens de l'histoire et surtout, ce sont des, comme ils l'ont dit eux-mêmes, des pourvoyeurs d'amour. Ils sont capables de restaurer, de maintenir le lien affectif malgré et envers contre tout. Et comme la maladie psychique prive la personne du contact avec son environnement, ils sont essentiels puisque eux sont ceux qui sont capables de restaurer le pont et le lien d'abord au sein de la famille, mais ensuite avec l'ensemble de la communauté.
Les professionnels sont-ils conscients de ces souffrances-là? Ils n'arrivent pas à les prendre en compte, à votre avis?
Alors, je crois qu'il y a une prise de conscience collective qui s'opère en ce moment. Je crois que ce qui a été fait pour la protection des droits des patients doit être fait maintenant pour les droits des proches et que c'est nécessaire de mettre en place un certain nombre de mesures et de bien comprendre ce que demandent les proches. Parce qu'on a vu qu'il y avait des confusions entre l'idée du secret médical qui est tout à fait nécessaire pour le patient et le besoin du proche qui n'est pas d'avoir des informations confidentielles intimes, mais d'avoir juste un interlocuteur qui lui donne des informations extrêmement concrètes sur le protocole, les procédures, l'établissement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est prévu, etc. Donc je crois que là, les professionnels sont en train d'entendre ces besoins et de mieux comprendre au fond qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport à ce que demande le patient lui-même et qu'ils peuvent aussi contribuer à aider le proche en informant le patient que s'il délivre, parce que c'est le patient qui peut délivrer le médecin du secret professionnel, du secret médical, donc le médecin peut donner des informations tout à fait utiles.
Je vous remercie beaucoup Barbara Azbinden, vous êtes l'une des organisatrices donc de ce congrès du GRAP invité par Simon Cortège. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi, au revoir.
Le premier ministre président vert d'un Land en Allemagne a été élu ce matin par le Parlement du Bade-Württemberg. Winfried Kretschmann, 62 ans, va donc prendre les rênes de l'une des régions les plus riches d'Allemagne. Récemment, cet écologiste a suscité une certaine incompréhension, déclarant dans une interview « Construire moins de voitures, c'est toujours mieux que d'en construire plus ». Mais le Bade-Württemberg est l'un des Länder en Allemagne où l'industrie automobile constitue un puissant moteur de l'économie locale. Qu'est-ce qu'on pense sur le terrain de ces déclarations? Voici le reportage de Blandine Milson.
Nous sommes sur la place Porsche à Stuttgart avec Hermann, un retraité de 69 ans, possesseur de deux Mercedes et qui souhaite aujourd'hui s'acheter une Porsche. Quand on lui demande ce qu'il pense des propos de son ministre-président, Hermann n'est visiblement pas très inquiet.
Ça va suivre son cours, on continuera à vendre des Porsche, des voitures rapides, ils n'auront pas d'influence là-dessus.
Devant les grilles de Daimler, au contraire, ces fiers ouvriers de l'industrie automobile, eux, trouvent les propos de Kretschmann franchement déplacés.
C'est complètement idiot, les voitures qui ne seront pas construites en Allemagne le seront dans les pays de l'Est ou en Chine et ça n'avance à rien. Daimler est l'un des principaux employeurs du Bade-Württemberg. Alors si les gens produisent moins de voitures, il n'y aura plus d'emplois et on se retrouvera à la rue. Et c'est complètement débile. Je ne comprends pas ça. Personnellement, je le trouve sympathique, mais ce sont vraiment des propos ridicules.
Il faut savoir que dans le Bade-Württemberg, un salarié sur quatre travaille directement ou non pour l'industrie automobile. Avec des grands noms comme Porsche ou Daimler, Audi ou Bosch, il participe à hauteur de 40% à la production des richesses du Land. Car cette région est connue pour son tissu industriel très dense de petites et moyennes entreprises implantées sur des secteurs de haute technologie. Alors quand on demande au patron du syndicat IG Metall si les propos de son ministre-président ne constituent pas une menace pour l'emploi, Jörg Hoffmann préfère se montrer positif.
C'est aussi une chance pour des innovations et pour une industrie qui est très forte dans les innovations, surtout de faire des épargnes d'énergie. Et ce sont des questions où le gouvernement vert rouge peut donner des idées, peut ouvrir une dynamique qui est nécessaire.
Il y a d'ores et déjà deux rendez-vous importants sur l'agenda du nouveau ministre-président. Les patrons de Porsche et de Daimler l'ont invité à venir dans les prochains jours dialoguer avec eux. Blandine Milson, Radio Suisse Romande, Berlin.
Et on reste en Allemagne. John Demjanjuk, âgé de 91 ans, a été condamné aujourd'hui en Allemagne à 5 ans de prison pour participation au meurtre de 27 900 juifs en tant que garde du camp d'extermination nazie de Solibor. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel.
Radio Suisse Romande, en immersion.
Et on part pour Rennes, cité nouvelle, où trois journalistes de la RSR vivent depuis 10 jours dans le quotidien de 6 citoyens dans le cadre de notre opération Génie Suisse. Le souci de l'environnement est présent chez tous nos témoins. Ils se manifestent dans leurs gestes quotidiens sans qu'ils affirment explicitement une conscience écologique. Esther Coco.
Oui, à l'image de Sabrina Rossi qui tient à aller faire ses courses à pied pour que le poids des marchandises ne soit pas un obstacle. 2 fois par an, elle prend sa voiture pour aller à Aligro faire son stock de pâtes, riz et farine. Des dizaines de kilos de marchandises que cette mère de famille conserve ensuite dans son garde-manger pour éviter de reprendre son véhicule. Quant au tri des déchets, c'est une activité familiale.
Voilà, ça aluminium.
Le tri des déchets est très important et puis c'est quelque chose qu'on fait en gros hebdomadairement. Les enfants sont habitués depuis tout petit de trier. Donc ils savent très bien qu'il y a la poubelle à papier, il y a la poubelle qui va être brûlée, il y a la poubelle pour les bouteilles, l'aluminium et puis les boîtes de conserve.
Chez Céline Pache, étudiante de 22 ans, toute la famille contribue à minimiser l'impact sur la planète. Normal quand on a un père chez les Verts.
On essaie justement de faire le moins d'impact possible. Déjà rien qu'en recyclant, c'est déjà bien pour une famille de 4 membres. Ça fait, il y a beaucoup de déchets. On essaie aussi, même au niveau de la douche, on essaie de prendre moins de bains. Puisqu'on a une baignoire, mais on l'utilise presque plus. Maintenant, c'est presque la douche. Tout le monde dans la famille essaie justement de faire un petit effort de ce côté-là.
Du côté de Willy Richner, retraité de 67 ans, il utilise le compost pour les légumes de son jardin.
Comme je suis assez écolo sur les bords, même beaucoup, tous mes déchets ménagers, tout ce qui est putréfectable, je l'apporte au jardin, je fais un compost avec. Il faut peut-être éviter les choses comme les pommes de terre ou tomates pourries parce que ça peut reproduire la maladie d'une année à l'autre.
Mais l'environnement, au sens large, le préoccupe aussi.
Je suis inquiet parce qu'on a été trop loin, on a dénaturé la nature et puis maintenant les politiciens se font du souci, ils se demandent comment ils peuvent faire marche arrière. C'est presque trop tard pour se faire du souci.
Spontanément, nos 6 témoins disent tous apprécier les efforts de la municipalité d'Aunay pour promouvoir l'environnement, notamment les poubelles enterrées qui évitent le dépôt sauvage d'objets encombrants ou le chauffage des immeubles à partir de l'usine d'incinération de Chenevier. Des cas concrets qui influencent directement leur vie quotidienne.
Esther Coco à la Maison Aunaisienne. Suivez notre opération sur geniesuisse.rsr.ch. Demain, le journal du matin, le 12h30, le forum seront en direct d'Aunay à 12h30. En direct de la Maison Aunaisienne, nous serons avec plusieurs invités. Vous entendrez quelques-uns des habitants, suivis par nos journalistes immergés durant cette opération. Avec nous également le sociologue de l'UNIL, Alain Clémence, qui nous apportera sa vision globale de cette opération de la Radio Suisse Romande. Il sera également avec nous au Noirmont, dans le Jura, et à Monthey-en-Valais.
Le 12h30, Natacha Van Kutsem.
La compétition pour la Palme d'Or du 64e Festival de Cannes est lancée. Les festivaliers découvrent aujourd'hui le premier des 20 films en lice, Sleeping Beauty, de l'Australienne Julia Legge. C'est sa première réalisation, un film décrit comme un conte érotique et froid sur la croisette Pierre-Étienne Joie.
Une étudiante très belle et déjà cette beauté de blancheur attirante. Elle cumule les petits boulots pour arrondir les fins de mois, pour vivre tout simplement en fait. Des emplois un peu spéciaux, cobaye pour un chimiste, complice d'une sniffeuse de coke, entraîneuse improvisée, serveuse tout simplement. Qu'associe la coquinée à un toxicomane. Elle est très lucide, pas de complexe à servir un alcool fort dans les cornflakes de son ami au réveil, tandis qu'elle-même s'octroie un grand verre du même jus. Jusqu'au jour où elle accepte un boulot nettement plus lucratif.
Let me tell you how I think we should proceed. I'll describe the job and then if you're interested, we'll discuss particulars.
Jouer les soubrettes à moitié nues pour un clan de vieux messieurs en mal de sensations sexuelles, blasés, quasiment impuissants, avec les limites que l'exercice impose. Pas d'acte formel. Jusqu'à finalement vendre ses charmes en dormant, pathétique et glacial, c'est là que le film ne prend pas. Les redondances, la froideur des plans fixes, l'esthétique de certains plans ne suffit pas. L'œuvre esquissée ne mène à nulle part, pas aboutie et lancinante, alors que le sujet aurait pu tenir la route. La route qui mène inexorablement à la mort, malgré le soubresaut de paradis artificiel ou des souvenirs de sensations érotiques, de stimulation ravivées par des pratiques scabreuses.
It's not a game.
Pierre-Étienne Joie, Radio Suisse Romande, Cannes.
Un festival à suivre sur rsrinfo.ch. Sexualité, fertilité et cancer, ce sont des thèmes abordés lors d'un symposium Appui, symposium pour les professionnels aujourd'hui, ouvert au grand public demain. Vous y participerez, Bénédicte Panès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière au centre du sein au CHUV. Les traitements liés au cancer perturbent bien souvent la vie sexuelle, la vie privée, la vie intime des patients, aussi des proches. Quelles sont les principales perturbations que les gens peuvent rencontrer ?
Alors la perturbation peut commencer à l'annonce du diagnostic déjà, où la personne, se sachant atteinte potentiellement d'un cancer, peut avoir vraiment déjà des répercussions sur sa vie intime. Puis après, c'est le diagnostic, l'opération. On peut imaginer certaines opérations comme l'ablation d'un sein, la répercussion que ça peut avoir pour la femme, ou alors des opérations chirurgicales, et aussi les traitements qui vont s'en suivre, la radiothérapie ou la chimiothérapie, voire l'hormonothérapie. Tous ces traitements peuvent potentiellement avoir une incidence sur la vie sexuelle des patients.
Donc il peut y avoir effectivement un blocage psychologique dès le départ. Après, il y a aussi tout ce qui est traitement. Est-ce que quand vous discutez avec des personnes qui sont touchées dans leur sexualité, vous avez l'impression que c'est plus le traitement ou vraiment une fixation sur le cancer qui peut bloquer dans la sexualité et dans la fertilité aussi?
Alors c'est sûr qu'il y a des raisons du cancer lui-même, hein. Il y a des raisons aussi qui sont liées au traitement, hein. On pense à une opération chez un homme qui sectionnerait les nerfs érecteurs par exemple. On peut penser aussi à l'image corporelle. Je crois que les problèmes de sexualité dans le cadre d'un cancer sont divers. On sait aussi que la chimiothérapie peut perturber la vie sexuelle, mais par exemple dans le cas des femmes, pas nécessairement de toutes les femmes. Donc d'autres impacts psychologiques, voire le vécu du couple, interfèrent aussi avec ça.
Vous êtes vous-même formée en sexologie, comme on dit, on appelle ça dans le jargon. Vous entendez les inquiétudes des hommes et des femmes, c'est quoi les principales ?
Alors actuellement, je travaille donc au centre du sein. Je travaille au moment où la femme apprend son diagnostic de cancer du sein. Et quand elle me voit, les questions sexuelles sont souvent émergentes.
Elles sont rapides, c'est vraiment tout de suite, on se demande comment ça va se passer la suite pour la sexualité.
Nous avons un questionnaire avec plusieurs questions, dont les questions sexuelles, et souvent cette coche est marquée par les femmes qui disent « Oui, mais comment ça va se passer pour moi et pour mon couple à partir du moment où on va m'opérer d'un cancer du sein ?»
Est-ce qu'aujourd'hui les professionnels ont de plus en plus de moyens d'expliquer ce qui se passe à leurs patients dans ces cas précis?
Alors je crois que les professionnels prennent de plus en plus conscience que les impacts sur la qualité de vie ne sont pas à négliger. Il faut dire aussi que les traitements s'améliorent de plus en plus et donc ça permet aussi une réflexion pour dire, eh bien, voilà, qu'en est-il de la qualité de vie? Il faut dire qu'on dispose aussi de plus d'informations, par exemple dans les cas des chimiothérapies, sur les répercussions sur la sexualité des patients.
Il y a aussi des évolutions en fait dans la sexualité d'un malade. La sexualité peut être changée, puis parfois, peut-être après la maladie en rémission, elle peut devenir améliorée. Par exemple, il y a aussi des messages positifs, c'est ça que je veux dire.
Oui, oui. Et il y a aussi des patients pour qui la sexualité, dans l'expérience du cancer, n'est pas mise à mal par la maladie. Et ça, c'est très important de le dire, parce que les problèmes sexuels ne concernent pas tous les patients.
Ce colloque, c'est pour aussi mieux répondre justement aux interrogations des patients?
Oui, très certainement, surtout demain, où demain nous attendons des patients qui témoignent, parce que nous avons beaucoup appris grâce aux témoignages des patients, des proches, qui ont pu nous raconter à travers ces symposiums, oui, c'est une difficulté. Demain, la journée du 13 est ouverte à tout public et nous espérons avoir des patients et des proches qui viennent nous livrer aussi leurs témoignages de ceux qui vivent.
Et qui auront des professionnels justement pour en discuter avec
eux. Voilà, nous avons une table ronde professionnelle patient.
Je vous remercie beaucoup, Bénédicte Panès. Sexualité, fertilité et cancer. Donc un thème abordé à Puy aujourd'hui. Demain, on le rappelle, c'est ouvert au public et vous y participerez également. Vous êtes infirmière au centre du sein du CHUV à Lausanne. Je vous souhaite une excellente journée.
Je vous remercie beaucoup. Merci.
Un manqueur de la bourse suisse à mi-journée. L'indice SMI est en baisse de 0,7% à 6515 points. Les prévisions météo pluvieuses d'Éric Fauchère.
Un courant d'ouest a entraîné sur nous des averses et de nombreux nuages ce matin, notamment sur le nord du pays. Les précipitations ne devraient pas s'éterniser cet après-midi. Des éclaircies seront possibles en fin de journée sur le nord-ouest, puis plus tard sur le bassin lémanique. Des pluies sont prévues sur le Valais et pourront rester encore actives jusqu'en fin de journée. Les maxima cet après-midi atteindront les 21 degrés, 0 vers 3000 mètres. Quelques rafales du nord-ouest seront possibles sur le plateau. Demain sera bien ensoleillé. En cours de journée, nous verrons fleurir quelques inoffensives cumulus sur les Alpes. Il fera 7 degrés au lever du jour et jusqu'à 22 l'après-midi. Le week-end sera très vite maussade et promet des averses assez fréquentes partout. Samedi, le ciel deviendra très nuageux dès la matinée et des précipitations localement orageuses se produiront et perdureront jusque dans l'après-midi. Il fera nettement plus frais, 18 degrés. Dimanche, idem, avec cette fois-ci des maxima proches des 15 degrés et des flocons pouvant tomber jusque vers 1500 mètres. Un fort risque d'enneigement des cols alpins est donc à prévoir.
La météo, offerte par les cafés La Semeuse et leur boutique en ligne, lasemeuse.ch.
Merci à l'ensemble de la rédaction et à l'assistance technique qui nous ont aidés à réaliser ce journal. Demain, on sera en direct donc de la maison onésienne avec plusieurs invités, les témoins de cette opération Génie Suisse, également le sociologue Alain Clémence, professeur de sociologie à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Il nous apportera sa vision sur cette opération Génie Suisse de la RSR. Il sera avec nous au Noirmont et à Montet. Une opération Génie Suisse à retrouver sur internet, geniesuisse.rsr.ch. Il est 13h sur la première.